le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui Marie-Christine Perry, prédicatrice pour l'Église protestante unie de France, en région parisienne. La sagesse peut-elle nous rendre meilleurs? Peut-elle nous rendre heureux? C'est une vaste question à laquelle les philosophes ont essayé de répondre. Mais que nous dit la Bible? Que nous en dit le livre des Proverbes qui s'annonce comme un livre de sagesse? Suivons Marie-Christine Perry dans ce questionnement.
Bonjour. S'il est un programme apprécié sur France Culture, c'est bien les chemins de la philosophie que certains auditeurs et auditrices écoutent religieusement tous les matins. J'en connais. Il est certain que la philosophie nous ouvre des portes de compréhension sur la nature humaine. Par elle, nous cherchons à atteindre une certaine sagesse, car son sens littéral le suggère. La philosophie, c'est l'amour, ou philo en grec, de la sagesse, Sophia. André Comte Sponville, dans son petit ouvrage de vulgarisation « Présentation de la philosophie », écrit dans son introduction qu'il faut philosopher. Dans quel but, demande-t-il ? Pour une vie plus humaine, plus lucide, plus sereine, plus raisonnable, plus heureuse, plus libre. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la sagesse, qui serait un bonheur sans illusion ni mensonge. Et il ajoute, peut-on l'atteindre ? Moi, j'ajouterais, comment l'atteindre ? Comment atteindre cette sagesse qui serait le bonheur ? Je ne vous proposerai pas ce matin une réflexion sur ce thème à partir des écrits de tel ou tel philosophe antique ou contemporain. Ce n'est pas le but de cette émission. Je laisse cela à nos spécialistes, mais je vous proposerai dans ce service protestant, et donc chrétien, d'aborder cette question à partir d'un extrait du livre des Proverbes qui se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un livre que je qualifierais de philosophique, parce que justement, il exalte l'amour de la sagesse. Que le Seigneur Dieu, qui, je le crois, a inspiré à travers son Esprit Saint l'auteur de ce recueil, nous permette d'en recueillir toute la sève. Et pour commencer ce temps de partage, je vous propose un cantique qui est une prière. Sonde-moi, ô Dieu.
Sonde-moi, ô Dieu.
Comme son nom l'indique, le livre des Proverbes est un recueil de proverbes ou maximes dont le principal auteur serait le roi Salomon. Le but de ces maximes, écrites il y a plusieurs milliers d'années, est indiqué dès le début du recueil. Elles sont rédigées comme si elles étaient les instructions d'un père ou d'une mère à son jeune fils. Alors, à première lecture, nous pourrions reposer notre Bible en pensant « bon, c'est plus d'actualité, hein, c'est complètement dépassé. Les enfants n'écoutent plus guère leurs parents. C'était bon dans le temps. Les mœurs sont changées. » Ou encore certains diront « C'est l'Ancien Testament, ce n'est plus valable pour nous chrétiens. » Cependant, si nous voulons bien nous pencher sur ces vieilles maximes, nous y trouvons des perles qui vont nourrir nos réflexions et peuvent encore influencer notre existence et notre relation à Dieu et aux autres. Je crois que Dieu nous y rencontre, nous y parle. Car le livre des Proverbes, en tant que livre de la Bible, est pour le peuple chrétien parole de Dieu, comme il l'était pour le peuple d'Israël. Écoutons donc, avec attention si vous le voulez bien, ce que nous dit l'auteur en relisant le chapitre 10, les versets 8 à 14. Celui qui est sage de cœur accueille les commandements, mais celui qui parle à tort et à travers court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui suit des voies tortueuses sera démasqué. Celui qui cache la vérité cause du chagrin, et celui qui parle à tort et à travers court à sa perte. La parole du juste est une source de vie, mais la parole des méchants couvre la violence. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre les transgressions. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais celui qui est dépourvu de raison donne le bâton pour se faire battre. Les sages amassent un trésor de connaissances, mais les paroles du fou lui promettent une ruine prochaine. La sagesse est le thème principal du livre des Proverbes. On peut trouver dans nos dictionnaires plusieurs définitions de la sagesse qui reflètent les différentes approches de ce qu'elle est selon les cultures et les époques. L'auteur des Proverbes n'en donne pas de définition à proprement parler. Ces maximes se présentent comme une suite d'affirmations binaires avec d'un côté les caractéristiques de celui qui est un sage et de l'autre celles de celui qui ne l'est pas et qu'il nomme insensé, méchant ou fou. Plus qu'un jugement, nous avons là un constat. Un constat sur la pauvre condition de l'humanité victime de ses propres folies. Car les maximes que nous avons lues mettent en avant les conséquences des paroles prononcées par des hommes ou des femmes sans sagesse. C'est-à-dire pour l'auteur, des êtres légers, sans honnêteté, sans sens moral, sans droiture et refusant les préceptes dicté par le Seigneur Dieu. Ces conséquences, nous les voyons encore aujourd'hui. Pas besoin de les chercher bien loin, nos journaux en sont remplis. Notre quotidien en est témoin. Ainsi, parler à tort et à travers, sans un jugement sain et objectif, sans une connaissance approfondie des faits évoqués, c'est vraiment s'exposer à être désapprouvé, ridiculisé et à perdre la face. C'est, comme le dit le proverbe, courir à sa perte. D'ailleurs, ne dit-on pas encore aujourd'hui que celui qui parle à tort et à travers donne le bâton pour se faire battre? De même, comme le dit le proverbe, les voies tortueuses, je dirais la corruption, les affaires louches, les sombres intrigues, un temps caché, finissent par être découvertes un jour et leur auteur démasqué. Celui qui se prétendait mensongèrement intègre et honnête, au-dessus de tout soupçon, subit alors la honte et la déchéance. Il est malheureusement vrai aussi que la haine excite les querelles. Et de tout temps, des discours haineux, mensongers et manipulateurs ont alimenté les conflits et la violence, et ont même entraîné des peuples entiers dans les guerres meurtrières. On peut se dire, bon, c'est un constat, il n'y a pas besoin de la Bible pour s'apercevoir que les discours des méchants et des imbéciles, comme dit une traduction, conduisent à la déchéance, à la violence et à la ruine de celui qui parle et de ceux qui écoutent. Mais je voudrais m'arrêter sur une note plus optimiste et tourner vos regards, ou plutôt vos oreilles, vers les sages. Il y a, heureusement, quelques propos sensés et raisonnables dans toute la cacophonie d'opinions, d'accusations et de revendications qui ont de tout temps inondé le langage de l'humanité. Il existe bien des sages selon la chair, comme les appelle l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont certains experts, penseurs ou philosophes, certains religieux aussi, qui préviennent, qui conseillent, qui offrent un discours de connaissance et de tempérance. Ce sont des hommes et des femmes, souvent intègres et bienveillants, qui ont un discours de tolérance et d'apaisement. Leur intelligence et leur sagesse sont humaines. Elles sont du monde, comme les qualifie aussi Paul. Mais les proverbes nous parlent d'une autre catégorie de sages, ceux que l'auteur appelle les sages de cœur. Le cœur dans les écrits bibliques, ce n'est bien sûr pas cet organe palpitant qui nous maintient en vie. Le cœur, c'est notre être intérieur, la source de notre intelligence, de nos émotions, de notre volonté aussi. C'est la partie la plus profonde de la personnalité, la partie spirituelle de l'être, celle que l'Esprit de Dieu peut éclairer et influencer. Les sages de cœur sont ceux dont la sagesse provient non de la connaissance intellectuelle, mais de l'être intérieur et même de l'être spirituel. Ces sages de cœur ont une caractéristique particulière. Ils accueillent les commandements, nous dit le verset 8. Certaines traductions parlent de préceptes ou encore de directives. Dans le contexte biblique, les commandements ne sont pas les ordres d'un commandant ou d'un patron, naturellement. Ce sont les commandements de l'Éternel, Yahvé, ceux qui, pour les Juifs et l'auteur des Proverbes, sont rassemblés dans la loi de Moïse. Cependant, le véritable sage n'est pas un observateur servile de la loi. Ce n'est pas un religieux légaliste. Le proverbe précise que le sage de cœur accueille les préceptes que lui donne le Seigneur, c'est-à-dire qu'il les reçoit avec reconnaissance et les observe par amour. Toute sa vie en sera empreinte. Le sage de cœur aime les commandements parce qu'il a foi en Dieu. Le psaume 119, tout au long de ses 176 versets, exprime toute la reconnaissance et l'amour de son auteur pour les préceptes de l'Éternel. Il est comme un écho des proverbes que nous méditons. Je lis. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Celui qui s'exprime là est en vérité un sage de cœur. Et il ajoute « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, ou la connaissance, car je crois à tes commandements. » Car le sage de cœur se caractérise aussi par l'intelligence et la connaissance. On aurait pu croire, comme le prétendent certains, que la foi s'oppose à la raison et à l'intelligence. Or, le psalmiste aspire à l'intelligence. Et l'auteur des Proverbes affirme que sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse et que les sages amassent un trésor de connaissances. Ce sont bien des sages, selon Dieu, qui sont ici concernés, des hommes et des femmes qui ont foi en lui. Ils possèdent l'intelligence et la connaissance, qui ne sont pas celles des intellectuels et des savants du monde, quoiqu'il soit tout à fait possible que l'homme de foi les possède aussi. Les sages de cœur possèdent une intelligence spirituelle, c'est-à-dire éclairée par le Saint-Esprit. Et cette intelligence leur permet d'acquérir un trésor de connaissances, la connaissance de Dieu et de sa volonté à travers sa parole.
Thank you.
Luc Ferry, dans son ouvrage « Apprendre à vivre », écrit qu'être sage, par définition même, c'est tout simplement vivre sagement, heureux et libre, autant qu'il est possible, en ayant enfin vaincu les peurs que la finitude a éveillées en nous. Cette sagesse-là, la sagesse des philosophes, permet peut-être de vaincre les peurs, mais elle ne délivre pas de cette finitude qui est le sort de toute créature. Elle ne délivre pas de la mort. La sagesse dont parlent les proverbes, la sagesse du cœur, la sagesse selon Dieu, va plus loin. Elle n'a plus peur de la mort. En effet, les sages de cœur ont découvert la source de la vie. Le verset 11 de notre texte révèle où se trouve cette source. Le verset 11 de notre texte révèle où se trouve cette source. La parole du juste est source de vie. Remarquons que s'il y a plusieurs sages ou plusieurs insensés dans ce passage que je vous ai lu, l'auteur ne parle que d'un seul juste. Qui est-il ? Paul, citant un psaume, affirmera qu'il n'y a point de juste parmi les hommes. Pas même un seul. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. En fait, le seul juste, selon Dieu, est celui que les Écritures, et particulièrement l'Évangile de Jean, annonceront comme étant la parole de Dieu incarnée, le Seigneur Jésus-Christ. Bon, certains parmi vous penseront peut-être « Que vient faire ici cette allusion à Jésus-Christ ?» dans ce texte de l'Ancien Testament écrit des centaines d'années avant sa naissance. Et pourtant, comme de petits cailloux laissés sur le chemin par le petit pousset qu'on veut égarer, Dieu a déposé de petits cailloux dans tous les textes bibliques, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, de petites pierres qui permettent de suivre son chemin et de découvrir son merveilleux dessein pour l'humanité. Un plan d'amour et de vie manifesté en Jésus-Christ le Seigneur. Voilà donc que Dieu, par la plume de l'auteur des Proverbes, révèle déjà que la vie jaillit comme une source d'eau de la parole du Christ, le seul juste. Jésus n'annonce-t-il pas lui-même à la femme samaritaine « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ». Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. N'est-ce pas l'Évangile de la grâce et de l'amour de Dieu pour l'humanité que nous entrevoyons dans les Proverbes ? Un amour qui couvre toutes les fautes et toutes les transgressions comme le révèle le verset 12 de ce 10e chapitre du livre des Proverbes. C'est l'essence même de l'amour de Dieu qui est ici révélé. Un amour qui offre à tous les hommes le don inestimable de son pardon. En s'incarnant dans la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu, par amour, accomplir ce que sa propre loi exigeait, pour que les hommes soient réconciliés avec lui, leur Créateur. Son amour couvre les transgressions, c'est-à-dire qu'il efface les fautes de celui ou de celle qui croit en lui, qui croit dans son pardon. Il lui pardonne, il lui fait grâce. C'est bien l'œuvre de Christ, le juste, que ces proverbes annoncent en filigrane. La sagesse des philosophes a-t-elle atteint le but qu'André Comte Sponville lui donne lorsqu'il promet une vie plus humaine, plus lucide, plus sereine, plus raisonnable, plus heureuse, plus libre ? Je ne crois pas qu'elle ait atteint, malheureusement. Alors, où trouver le bonheur ? À cette question, je répondrai avec le proverbe du chapitre 16, au verset 20. Celui qui prend garde à la parole trouvera le bien ou encore le bonheur. et qui se confie dans le Seigneur est heureux. Dieu, à travers la parole de Jésus-Christ, nous élève vers le bien et le bon. Il dirige nos pensées et nos intentions vers ce qui vaut vraiment la peine, non seulement pour nos propres vies, mais aussi pour celles et ceux qu'il a placés dans notre sphère d'existence. La substance de cette parole du Christ, parole du juste, se trouve de façon explicite dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5 à 7, dans ce que l'on appelle le Sermon sur la montagne. Ce discours de Jésus résume tous les commandements. C'est un commandement d'amour pour tous les hommes. C'est le commandement qu'accueillent avec reconnaissance les sages de cœur. C'est ainsi que le sage, selon Dieu, possède pour lui-même le vrai bonheur, c'est-à-dire la paix, la sérénité et la vie. La vie qui va au-delà de la finitude, la vie éternelle. C'est alors qu'il devient aussi une bénédiction pour l'humanité. En effet, il est porteur de vie et d'amour, il est ambassadeur du Christ et témoin de l'évangile du salut par ses paroles et ses actes. Et c'est l'humanité qui en devient bénéficiaire. Oh, que Dieu en multiplie le nombre! Le monde en a tellement besoin. Oh, que tous ceux qui ont déjà reçu la révélation de l'amour de Dieu soient ces sages de cœur, ces bienfaiteurs de la part de Dieu. Que ceux qui ne le connaissent pas encore s'approchent de lui, en le priant de les éclairer pour qu'ils trouvent la véritable sagesse et la source de vie qu'est le Christ. Alors, goutte après goutte, la mère de l'humanité pourra en être vivifiée et bénie. Le véritable bonheur pourra la submerger, comme un baptême de renouveau, pour que tous les hommes en soient les bénéficiaires. Est-ce de l'utopie? Non. C'est la bonne nouvelle du salut offerte à l'humanité. C'est notre espérance dans le Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous comble du véritable bonheur et vous accorde sa paix.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. La sagesse rend-elle heureux? C'était le thème de la méditation de Marie-Christine Perry, prédicatrice pour l'Église protestante unie de France, en région parisienne. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Manu Couturier. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation? Je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au 47 rue de Clichy dans le 9e arrondissement de Paris. Restez sur France Culture, à venir Culture protestante, le rendez-vous mensuel des amitiés huguenotes internationales. Aujourd'hui, Laure Ginesti-Vermeer nous parle de la police de caractère Garamond, de l'époque de la Réforme jusque dans votre ordinateur. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.